Chapitre 14. Pour qu'elle fût assurée de pouvoir dîner à 6h30, il fallait que ce fût la règle de tous les jours, sans quoi elle aurait, chaque soir qu'elle devrait recevoir son amant, des combinaisons nouvelles à inventer qui s'épuiseraient bien vite. Ce fut à cela qu'elle s'appliqua dès le lendemain. Quand Courteheuse se mit à table, à 7h passées, il ne vit qu'un couvert dressé, le sien. « Tu ne dînes pas ? » demanda-t-il étonné. « J'ai dîné. »« Comment dîner ?»« À 6h30. Je me suis trop bien trouvé hier d'avoir avancé mon dîner. J'ai passé une nuit trop bonne, trop agréable, la meilleure nuit de ma vie sûrement, pour ne pas profiter de l'expérience acquise. Désormais, je dînerai toujours à 6h30. »« Voilà qui est plaisant pour moi. »« Tu n'en souffriras pas. Si cette heure ne te convient pas, ce que j'admets très bien, je m'arrangerai pour que mon dîner ne compromette pas la qualité du tien. » Elle savait qu'en mettant en avant ce moyen d'arranger les choses, elle ne ferait qu'inquiéter un homme qui savait compter. Ce fut ce qui arriva. « On fera donc deux dîners, » dit-il. « On n'en a fait qu'un aujourd'hui, et je suis certaine que l'haricot de mouton qu'on va te servir ne sera pas moins bon que s'il avait été préparé pour 7h30. »« Bon pour les ragoûts, mais les rôtis. » « Dame ! Alors, je suis condamnée au ragoût ?» Elle ne répondit rien, mais le lendemain, il en fut de même, et le surlendemain aussi. Sans doute, elle assistait au dîner de son mari, au moins en cela qu'elle se tenait dans la salle à manger, mais ce n'était pas du tout la même chose pour lui, d'avoir sa femme assise sur une chaise près de la fenêtre, lisant ou rêvant, que de l'avoir à sa table, mangeant, buvant, causant avec lui. Le troisième jour, après avoir commencé par vigoureusement secouer et injurier les plaques, il déclara que dorénavant, il dînerait à 6h30. « Cela me dérange, me gêne, m'embête, mais il faut bien en passer par là, puisque c'est la convenance de madame. » « Pourquoi gâter par ces mauvaises paroles le sacrifice que tu me fais ? » dit-elle avec une émotion touchante. « Ne veux-tu pas que je t'en sois reconnaissante ? » Quel bien cela me ferait-il? J'ai toujours vu que la reconnaissance est agréable à ceux qui se vantent d'éprouver ce sentiment, mais j'en suis encore à chercher en quoi elle l'est à ceux qui l'ont provoqué. Ayant obtenu ce qu'elle voulait par ce changement d'heure, elle n'avait plus qu'à manœuvrer de façon à ce qu'on ne vînt pas déranger son mari après qu'il aurait bu le grog additionné de sulfonal et serait sous une influence hypnotique. Que penserait-on de lui si on le voyait pris d'un sommeil irrésistible? On parlerait, on s'étonnerait, on le questionnerait, de façon à appeler son attention sur ce sommeil. Et cela devait être évité avec d'autant plus de soin que déjà il s'était plaint deux ou trois fois de ne pas pouvoir s'éveiller le matin et de rester l'esprit lourd, comme paralysé, comme hébété lorsqu'il se mettait au travail. Grâce à l'automne, les circonstances lui étaient favorables. Le temps s'était rafraîchi, surtout le soir. Il y avait eu de grandes pluies. Et maintenant, souvent dès le coucher du soleil, la rivière et les prairies se couvraient de vapeurs qui traînaient le long des rives et noyaient les arbres jaunissants dans leur ouate. À quoi bon aller passer la soirée dans le kiosque? Si c'était pour tenir les fenêtres fermées, autant rester dans le cabinet. Elle avait donc pu l'empêcher de sortir après le dîner, et comme il avait habitué ses clients à ne pas le déranger le soir à moins d'affaires urgentes, comme d'autre part, il n'avait pas d'amis assez intimes pour que ceux-ci vinssent les relancer la grille fermée, elle avait pendant assez longtemps échappé au danger des visites à l'heure où elles eussent été inquiétantes. Mais un jeudi soir, peu de temps après l'absorption d'un grog préparé, on sonna à la grille d'une main résolue, et Célanie vint annoncer que c'était M. Turlure qui désirait entretenir M. Courteheuse d'une affaire pressée. « Il nous ennuie, le pharmacien !» s'écria Mme Courteheuse. « Pourquoi ?» Puis, sans attendre une réponse, il dit à Célanie d'ouvrir à M. le maire, et même il quitta son fauteuil pour aller au-devant de lui. Le pharmacien entra en s'excusant avec politesse auprès de Mme Courteheuse de se présenter chez elle à pareille heure. « Quelques minutes, dit-il, quelques minutes seulement, et certes, madame, je n'aurais pas sonné à votre grille si ce n'était pas demain vendredi, ce qui, conséquemment, ne me permettrait de voir M. Courteheuse qu'au moment de son départ pour Rouen. Entre deux inconvénients, j'ai voulu au moins choisir le moindre. » Elle était exaspérée de ces phrases polies qui ne laissaient pas. S'il continuait ainsi, à quelle heure s'en irait-il? Cependant, il expliqua brièvement son affaire, et à peine Courteheuse lui avait-il donné le conseil approprié à son cas qu'il se leva. Mais elle s'était trop hâtée d'espérer que pour être debout, il allait partir. « J'espère au moins que vous n'êtes pas souffrante, chère madame, » demanda-t-il. « Pas du tout. Et vous, cher maître ?» Elle voulut faire tête en se hâtant de répondre. « Monsieur Courteheuse ne s'est jamais mieux porté. » « Et pourquoi voulez-vous que je sois souffrant ?» demanda le notaire. « Simplement parce qu'on ne vous voit plus dans votre kiosque. Je suis passé plusieurs fois et j'ai toujours trouvé les fenêtres closes. Vous commencez l'hiver de bonne heure. » « C'est le mauvais temps qui commence de bonne heure, » répondit-elle, « le brouillard, l'humidité, le froid. » Il y a du vrai, beaucoup de vrai dans cette plainte, mais pas pour ce soir cependant. Jamais nuit d'automne n'a été plus douce et plus radieuse. En venant par le quai, il me semblait que j'étais en vrai pays de féerie. Cela ne vous donne pas envie de sortir. Il y a longtemps que nous n'avons taillé une bavette. « Asseyez-vous donc et taillez-la ici, » dit-elle vivement. Mais Courteheuse n'accepta pas cet arrangement. « Pourquoi ne pas sortir, dit-il, puisque le temps est beau. En tout cas, tu peux rester. » Puisqu'elle ne pouvait pas le retenir, mieux valait encore l'accompagner. Au moins, elle verrait ce qui se passerait, et si les choses tournaient mal, elle tâcherait de les expliquer. Cela valait toujours mieux que de s'abandonner au hasard. « Le temps de mettre un fichu, dit-elle. » Si Turlure désirait tailler une bavette, c'était pour parler d'une affaire d'empoisonnement qui se jugeait en ce moment devant les assises de la Seine et qui passionnait d'autant plus vivement la curiosité que trois experts, des plus considérables par leur situation, étaient pour la culpabilité, tandis que trois médecins non moins considérables étaient pour l'innocence. Cela donnait lieu à une lutte engagée depuis plusieurs jours, à propos de laquelle le pharmacien, qui faisait profession de critique judiciaire, était bien aise de discuter, non seulement au point de vue criminel, mais encore au point de vue professionnel. À peine était-il sur le quai qu'il commença sa leçon, épluchant l'instruction, démolissant l'acte d'accusation, blâmant la marche brouillonne des débats, et cela parut d'autant plus singulier dans sa bouche qu'ordinairement il était du côté de l'accusation. Alors le notaire, lui qui était toujours avec la défense, prit l'opinion contraire et aussitôt s'engagea une discussion assez vive pour assurer Madame Courteheuse. Que cette lutte de parole se prolongeât aussi longtemps que cette malencontreuse promenade et le sommeil ne se produirait pas. Il fallait donc qu'elle fût attentive à ne pas la laisser faiblir et veillât à les exciter l'un contre l'autre, ce qu'elle fit. « Ce que je ne comprends pas, dit-elle, c'est que dans cette affaire, les médecins de l'accusation affirment que la mort a été causée par un empoisonnement et que ceux de la défense soutiennent que la mort a été naturelle. »« Parfaitement, s'écria Courteheuse, qui cependant n'était jamais du même avis que sa femme. Il est scandaleux qu'un professeur de l'école de médecine vienne déclarer en plein tribunal qu'une autopsie faite par un autre professeur de l'école est une honte pour notre pays. » « Si c'est son opinion, quelle confiance voulez-vous que nous inspirent ces polichinelles qui ne pensent qu'à se quereller et à se faire de la réclame sur le dos d'un malheureux accusé ?» Et la querelle continua de plus belle. Puis, quand elle commença à s'apaiser, Hortense reprit « Et ces 400 médecins qui ont soigné la victime pour toutes les maladies imaginables ?» Il faut dire que les uns et les autres ont été au-dessous de tout. S'écria Courteheuse, heureux de taper sur les médecins pour atteindre le pharmacien par ricochet. « Mais je ne trouve pas, » riposta vivement Turlure. « Si vous saviez comme l'empoisonnement est un crime difficile à découvrir et qui déroute les recherches, vous ne parleriez pas ainsi. Croyez-vous qu'un honnête homme n'hésite pas, avant de formuler un soupçon qui aboutira à la suspicion de personnes entourées de considération ? C'est pour cela que tant d'empoisonnements, qui pourraient être prévenus par un médecin qui oserait aller jusqu'au bout de ses doutes, ne le sont pas. Et c'est pour cela aussi que tant de crimes de cette espèce s'accomplissent ou restent impunis. Non par ignorance du médecin, comme vous le supposez, mais parce que les circonstances accidentelles ne confirment pas assez ses doutes pour lui faire une conviction et le forcer à des accusations devant lesquelles ses scrupules s'arrêtent. Là-dessus, il entreprit une sorte de conférence sur l'empoisonnement, sans que le notaire pût placer une seule interruption. Alors elle s'inquiéta de ce silence forcé. Tant qu'il était secoué par la discussion, il pouvait ne pas sentir le besoin du sommeil, mais la marche seule suffirait-elle pour le tenir bien éveillé? Il fallait donc qu'elle se jetât en travers de ce discours. Elle déclara qu'elle était fatiguée. « Obliquons sur la pharmacie, » dit Hurlure. « Vous vous reposerez un moment avant de rentrer. »« Le froid m'a saisi. » »« Précisément, c'est le cas où le garus est indiqué. » Elle voulut se défendre, mais son mari ayant accepté l'invitation sans s'inquiéter d'elle, il fallut bien qu'elle le suivît. Qu'adviendrait-il quand il serait assis et que Hurlure pourrait l'examiner en pleine lumière ?